Alors, Olivetti. Olivetti, ce que vous voyez d'abord, c'est une image d'Olivetti qui est issue d'une mini-série de la télévision italienne très récente qui s'appelait La forza di un sogno, la force d'un rêve, et qui a eu pas mal de succès, peut-être que certains ont pu le voir. Le mythe d'Olivetti, on a pu le voir à cause de ça, est bien resté dans les mémoires. L'interprète principal, alors autant le dire en passant, c'était Luca Zingarelli. Vous l'avez peut-être reconnu parce que si vous suivez un peu la télévision ou les films, c'est l'interprète habituel du commissaire Montalbano de Camilleri. Voilà. Bon, alors on va voir dans cet exposé combien Adriano Olivetti était un personnage complexe. Complexe, je peux vous le dire, hein, ça c'est parce qu'il m'a donné du fil à retordre. Et comme sa vie écourtée fut riche en événements. Adriano Olivetti naquit en 1901 et mourut d'une crise cardiaque en 1960, donc il a vécu 59 ans. Ce n'est pas possible de suivre au fil des ans la vie compliquée d'Adriano Olivetti, car il faudrait en même temps dérouler tous les événements historiques qu'il a vécus. Il faut suivre les étapes du développement de son entreprise et il faut... Il faudrait aussi développer la richesse de ses idées, comme on l'a vu dans cette mini-série. On aura donc plutôt un plan qui ne sera pas chronologique, je m'en excuse, mais qui mettra en scène sa famille aussi, l'histoire de son pays, ses réalisations et sa personnalité de chef d'entreprise, de novateur, de créateur, souvent qualifié d'utopiste, mais aussi d'homme de cœur et de conviction. Non. On va rester sur les vues d'Olivetti. Le voici en 1957, il avait donc 56 ans. Et une romancière italienne, qu'il a bien connue, dresse de lui ce portrait. Adriano était devenu un grand et fameux industriel. Mais il avait encore cet air un peu égaré, qu'il avait plus jeune quand il était militaire, et il marchait toujours du pas traînant et solitaire d'un vagabond. Il était resté timide, incapable de se servir de sa timidité comme d'une force. C'est pourquoi il l'a refoulé en lui-même, en présence de personnalités qu'il rencontrait pour la première fois, fût-il un personnage politique important ou un pauvre garçon venu chercher un emploi chez lui. Il redresserait la tête et allumait ses yeux, d'un regard immobile, froid et pur. Alors l'auteur de cette description, c'est Natalia Ginzburg, sa belle-sœur, c'était sa belle-sœur. Il avait en effet épousé la sœur de Natalia. On y reviendra. Alors elle a écrit ça dans cette œuvre ici, que peut-être, je vais encore vous en parler, les psychofamiliares. Ça s'appelle, en français, c'est « Les mots de la tribu ». Natalia Ginzburg fut un grand écrivain italien. Elle était la fille d'un grand professeur de Turin, Giuseppe Levi, qui avait 5 enfants. Le livre qui obtint le prix Strega est l'histoire des membres de cette famille, autour du vocabulaire paternel, un vocabulaire assez particulier, souvent fait de mots connus d'eux seuls. C'est pourquoi elle... C'est appelé les mots de la tribu. C'est charmant et très bien écrit. Natalia Ginzburg vous a été présentée ici, dans une conférence à la Corfu, faite par Marie-Antoinette Loufkani, qui est ici. Je vais vous la montrer, Natalia Ginzburg. Cette photo nous montre Natalia en compagnie d'un grand personnage, le président de la République, Pertini. Enfin, elle a été faite plus tard, en 1978. Mais je vous en parlerai de Pertini, la Pertini plus jeune. Il apparaîtra dans la vie d'Adriano dans des circonstances assez exceptionnelles. Dans son livre, Natalia, il lui arrive souvent de parler d'Adriano Olivetti. Alors, de ce fait-là, je la citerai encore. L'Italie, vous le savez bien, est un pays où le régionalisme est très fort. Il faut donc dire, pour commencer, d'où est natif Adriano Olivetti. C'est à Ivrea. C'est une vue d'Ivrea. Alors vous voyez qu'il y a un peu de montagne dans le fond. En effet, quand on vient de France, on entre en Italie par le Val d'Aoste, par la route, On aperçoit Ivrea sur la gauche, juste avant de quitter le Val d'Aoste et de pénétrer dans la plaine du Pô. Vous allez mieux le voir dans une carte comme celle-ci. C'est une carte de la province de Turin. Et vous voyez donc Ivrea est là-bas. Sur cette carte, on peut situer Ivrea donc, par rapport à Turin. Il y a 50 km entre les deux, c'est pas très loin. Et pour Milan, la distance, alors Milan est plus à l'est, là, pour Milan c'est environ 100 km. Les distances sont assez brèves. Hein. Ivrea est la ville principale d'un territoire appelé le Canavese. Je vais peut-être vous en parler plusieurs fois, c'est pourquoi je vous le cite. Comme souvent en Italie, l'attachement au territoire est profond. Un exemple, pour bien marquer leur appartenance, les communes du Canavese, on dit en français Canavese, mais je crois que c'est peu connu en français, alors je continue à dire Canavese, complètent souvent leur nom du suffixe Canavese. Ainsi peut-on sur cette carte lire le nom de Rivarolo, alors peut-être vous ne voyez pas très bien, mais c'est Rivarolo Canavese. Oh, il y a tant de noms comme ça qui suivent Canavese, 50 communes. Hein. Autant d'Olivetti. Au Canavese, on est à la fois ouvrier dans la mécanique, ou artisan, et agriculteur. C'est souvent mélangé. Hein. Et du reste, le Canavese est un district industriel spécialisé dans l'électromécanique. Un autre caractère très fort, italien, c'est la famille, qui va jouer un grand rôle dans la carrière d'Adriano Olivetti, vous allez le voir. Voici une photo de cette famille. Bon, alors, il faut dire que le père est là, Adriano est là. Alors, la maman, bien sûr, et puis alors, il y a 5 enfants. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a 6 enfants.
Alors, Camillo Olivetti, c'est important, parce que c'est lui le créateur de l'usine Olivetti, que son fils, Adriano, fera prospérer plus tard. Les autres enfants se prénomment, je donne quand même les prénoms, parce qu'ils vont revenir. Elena, Massimo, Silvia et Laura. Le plus jeune, c'est Dino. Laura va mourir jeune des suites d'un accouchement. Adriano, c'est l'aîné, c'est important. La mère, Luisa, joue un rôle effacé dans notre histoire. Institutrice, elle est issue d'une communauté vraiment particulière. Son père était un pasteur vaudois. Pasteur itinérant, est-ce que vous savez ce que c'est que les vaudois ? Les vaudois, pas les vaudois du pays de Vaud en Suisse, hein ? Les vaudois. Bon, alors je vais vous l'expliquer. C'est une minorité religieuse italienne qui a été longtemps persécuté. Il ne faut pas les confondre avec les Valsers. Les Valsers, c'est une communauté aussi de haute montagne, mais qui n'est, comme vous allez le voir, la religion ne joue pas un rôle dans la particularité des Valsers, mais le langage. Ils sont plutôt vers les vallées qui viennent du nord, vers le Val d'Aoste, que de Gressonnet. Et puis dans une autre vallée parallèle qui est le Valsesia. Alors ils sont de Alania Valsesia aussi. Ça c'est les Valsers. Le mouvement vaudois est très ancien. Il a été fondé en 1170 par Pierre Valdès, dont je vous montre ici la statue. 1170, regardez ça. Cette statue se trouve à Worms, en Allemagne. C'est sur le mémorial de Luther. Oui, Worms, ça vous inspire quelque chose, évidemment, c'est Luther. Bon, riche commerçant, Valdès décida de léguer ses biens à sa famille et se retira pour propager la Bible en langue vulgaire. Avant Luther. Bien avant. Mais que sont venus faire les Vaudois en Italie ? Des Vaudois, ils étaient installés en Savoie quand survint la révocation d'Édit de Nantes. Bien que défendus par les puissances protestantes du nord de l'Europe, les Vaudois durent s'enfuir, c'est ce qu'ils appelèrent leur glorieuse rentrée. Alors on voit qu'ils devaient se trouver en Savoie, du côté du lac Léman, et puis ils ont traversé donc toutes les Alpes, et ils sont arrivés ici, c'est à Pellice, c'est au sud de Turin. Dans la vallée du Pellice, près de Pignerol, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, leur langue au vaudois, c'était jadis le français, puis C'est devenu le franco-provençal, qui était la langue de l'endroit. Et enfin, l'italien, bien sûr. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a quand même un temple vaudois à Turin, que le pape, d'ailleurs, a visité en juin 2015. La religion vaudoise va jouer un rôle, elle aussi, dans l'histoire de la famille Olivetti. Alors, je vais vous montrer maintenant, d'un peu plus près, le père, Camillo Olivetti. Le père, Camillo Olivetti, c'est un caractère. Il était né dans le petit quartier juif d'Ivrea, dans une famille de négociants en tissu. Il fit de solides études d'ingénieur en électromécanique à Turin, puis il travailla à Londres un an dans la même branche. En 1893, c'est un peu loin, il accompagna en Amérique son professeur de Turin, qui était un savant du nom de Galileo Ferraris, qui a laissé un nom dans l'histoire scientifique italienne d'ailleurs. Il y a rencontré des personnages comme Edison. Edison, il a dit qu'Edison, pour un inventeur de téléphone, il était sourd à ce moment-là. Enfin bon. Il a visité beaucoup d'usines, je parle toujours de Camillo, et il a donné même des cours à l'université de Stanford. Alors peut-être ça ne vous dit rien, mais l'université de Stanford, premièrement, elle venait de naître. Deuxièmement, elle se trouvait encore à Palo Alto. Et où est Palo Alto? Ben, c'est dans la Silicon Valley, qui portait pas le nom de Silicon Valley à ce moment-là. Hein. Ça devait être une prédestination, vous savez. De retour en Italie, Camillo crée à Milan une entreprise de production d'instruments de mesure électrique. C'était dans son métier. Il y adjoint l'importation de machines à écrire qui provenaient d'Amérique. Et finalement, il retourne à Ivrea, il était à Milan à ce moment-là, avec ses ouvriers, il s'ouvrait le patron apparemment, pour créer sous son nom sa propre fabrique de machines à écrire. D'un esprit inventif et passionné par la mécanique, il dessine lui-même ses modèles de machines et il déposait sans arrêt des brevets. Il disposait d'une petite fortune et il l'a utilisée pour développer son affaire sans appui bancaire. C'est important. Contrairement à Agnelli, il éprouvait peu d'intérêt pour l'automobile et il circulait toujours en bicyclette, comme vous voyez, comme des ouvriers du reste. Juif de naissance, il ne pratiquait pas sa religion, sauf vers la fin de sa vie, quand elle a été persécutée. Là, il a commencé à s'y intéresser. D'opinion démocrate et sociale, il se mit à éditer localement des revues politiques. Et c'est ainsi qu'il s'opposa au fascisme, comme on le verra plus tard. Le terrain qu'occupe la première usine Olivetti comprenait un ancien couvent de bénédictins désaffecté, le couvent San Bernardino. C'est là que va vivre Camillo et sa famille, à Ivrea, près de l'usine. Voilà, c'est le couvent. Il était dans un état assez délabré, hein. Dans un état profond d'abandon. Mais il a été peu à peu remis en état, avec l'aide des ouvriers de l'usine, bien entendu. La partie habitée était rendue confortable. Les chambres, c'était les anciennes cellules des moines. Les enfants vont y recevoir une éducation assez libre, à la Rousseau. Libre aussi du point de vue de la religion, n'étant pas circoncis, ni baptisé à la naissance. Selon les ordres du père. Il ne fallait pas leur parler de religion. Le couvent, alors en partie délabré, était un terrain de jeu idéal, bien que les fresques de l'église, qui étaient converties en grange, souvent, ça a suscité leur étonnement, évidemment. Vous pouvez vous en douter. Alors ces fresques, qui sont l'œuvre d'un nommé Spanzotti, elles datent de 1490 environ. Et par la suite, les locaux ont été naturellement transformés, réhabilités et attribués d'ailleurs aux services sociaux de l'entreprise. Actuellement, les fresques restaurées peuvent être visitées. Le couvent peut être visité. À côté du couvent s'élevait la première usine édifiée par Camillo Olivetti. Elle sera appelée l'usine aux briques rouges, c'était le mode de construction des usines à l'époque. Bâtie en 1896, C'était donc la construction habituelle. Camilo, à ce moment-là, connaît par leur nom tous ses ouvriers. Il est capable de faire lui-même tout ce qu'ils font. Il leur montre quelquefois. Le temps n'était pas encore venu des réunions syndicales, évidemment, sinon improvisées par le patron lui-même qui réunissait ses gens pour leur dire ben voilà, on ferait pas ça, etc. Bien, je fais telle augmentation, vous êtes d'accord ? Bon, mais... Voici une photo du personnel. Ça a été pris un certain temps. Il ne tenait plus dans l'usine, hein, à ce moment-là. Bon, vous voyez, on se demande si ceux qui sont en haut, sont atteints de vertige. J'ai peur de ce qui peut arriver. Hein. Alors, bien sûr, on voit le Camilo ici. Et puis là, ça doit être des contremaîtres. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Peut-être que la moitié, vous pouvez les compter si vous avez le temps. Je ne les ai pas comptées. Je crois bien que près de la moitié sont des femmes. Alors, c'est avec cette équipe que Camilo parvient à fabriquer sa première machine à écrire. Là, voilà. Il a appelé la M1. Nous sommes en 1908. C'est un exploit car on est parti de zéro. Et ce n'est d'ailleurs pas un chef-d'œuvre. Hein. Elle comporte la quantité énorme de 6000 pièces. Et pèse 14 kilos. On en produit au début que 5 par jour. Elle se vend 500 lire, c'est les lire de l'époque évidemment, hein. Tandis que la Remington concurrente se vend 450. Il faudra encore presque 3 ans de mise au point, mais elle sera présentée à l'exposition internationale de Turin en 1911. Alors sa première lettre de Camilo a été écrite sur un prototype et adressé de Milan à sa femme. Alors bon, cher Luigia, c'est la première lettre que j'écris, c'est en 1908, hein, avec la nouvelle machine et avec une grande satisfaction que je la dédie. J'ai dit ces quelques lignes que j'espère que tu recevras. Que la machine n'est pas encore parfaite, mais je pense que dans peu de temps, je pourrais, trois ans après, il a fallu, hein, je pourrais la rendre bonne, aussi bonne que les meilleures machines du genre. Alors je t'envoie 1000 baisers affectueux. Voilà, c'est gentil. Hein. Bon, c'est la première machine à écrire italienne, c'est le grand succès de Camilo. Et ceux qui vont suivre seront de plus en plus souvent partagés avec son fils aîné Adriano, qui deviendra maintenant le personnage principal de cette présentation. Les études d'Adriano ont commencé en pension, à Milan. Ils avaient eu un précepteur avant, mais il fallait bien les envoyer en pension, lui et son frère, Massimo. Mais ce dernier, Massimo, il est de santé fragile, et le climat milanais ne lui convient pas, les brumes. C'est pourquoi on les envoie tous les deux à Cuneo, dont il fréquente l'Institut Technique. Il n'a pas dû changer beaucoup, l'Institut Technique, là. Cuneo, c'est une ville d'importance moyenne, située au sud de Turin. Le père avait choisi pour eux, bien sûr, la branche scientifique, ce qu'Adriano regrettera par la suite en disant que lui avait manqué des études classiques et le latin. Pendant leurs études, la guerre éclate. Et Adriano, dès qu'il a 17 ans, décide qu'il est de son devoir de s'engager, ce qu'il fait sans consulter son père, et il s'engage dans les Alpini, les chasseurs alpins. Mais c'est juste la fin de la guerre, hein. Il avait 18 ans, ce moment-là. Adriano est démobilisé, c'est en 18, et démobilisé après quelques mois. Bon, ils sont bien placés pour pratiquer les randonnées en haute montagne. C'est ce qu'il fait souvent avec son grand ami Gino Levi, dont je vous reparlais, qu'on va voir ici, qui est le frère de Natalia, l'auteur, et de Paola, sa future femme. Alors Gino, c'est l'homme à lunettes ici. Et ils sont sans doute, je pense, devant un gîte de haute montagne. Un gîte à l'eau. Alors Gino Levi, il va changer son nom plus tard en Martinoli. Alors j'aurais aussi à vous l'expliquer ça. Alors c'est en compagnie de Gino qu'Adriano continuera ses études, cette fois à l'Institut Polytechnique de Turin. L'Institut Polytechnique de Turin, c'est le futur Politecnico, qui est aujourd'hui école supérieure de formation d'ingénieurs. Contre le choix de son père, une fois de plus, Adriano passe au bout d'un an de la section ingénieur en mécanique qui avait été choisie pour lui en celle de chimiste dans l'industrie. Je pensais qu'il s'en est jamais servi, il n'a jamais été chimiste. C'est alors qu'il fait son service militaire normal, comme Alpino, bien entendu. Et il fait aussi, en même temps que Gino, un stage d'apprenti dans l'usine, payé du même salaire que les apprentis ouvriers. Bon, ça, c'est la fonderie. On devine le climat de l'usine, un peu, à l'aide de ça. C'est son second stage dans la fabrique. Le premier, il l'avait fait à l'âge de 13 ans. Et il s'était promis de ne jamais remettre les pieds dans l'entreprise paternelle. Cette fois, il y retourne quand même, peut-être parce qu'il est avec son copain. Pourtant, comme il l'écrit lui-même, contrairement à son père, il n'est pas attiré par le travail manuel. Mais tout de même, l'entreprise offre des perspectives de développement qui ne lui échappent pas. Et c'est enthousiaste qu'en 1925, sur les pas de son père, il part pour où ? Mais comme son père, pour le Nouveau Monde. Il raconte plus tard, « Quand je m'approchais de la statue de la liberté et que m'apparaissaient les gratte-ciels, il me vint une pensée d'orgueil. Je venais pour étudier, pour comprendre les secrets de la puissance industrielle, mais je ne réussissais pas à me convaincre que tout était possible, même dans mon petit pays, et que j'y serais retourné pour montrer à moi-même et aux autres combien la volonté et la méthode pouvaient prévaloir sur les hommes et sur les choses. » Vous voyez dans quel état d'esprit il était. Il ne dépense pas beaucoup en Amérique, il voyage en seconde classe. Il dort dans les auberges de la YMCA, comme les auberges de jeunesse, et en passant, il dépose pour les protégés les brevets dans les bureaux, les brevets des procédés inventés par son père. En 6 mois, il visite 105 fabriques. Il est reçu chez Remington, le grand concurrent, qui était alors le premier fabricant mondial de machines à écrire, chez Cortina, une autre boîte importante, mais aussi sur un gros concurrent, le Underwood. Mais Underwood, il n'est pas reçu là, il est refoulé. Cette humiliation pèsera lourd dans une décision industrielle qu'il prit 30 ans plus tard. Pendant ce temps, l'Italie est la proie du fascisme. Et en 1926, survient l'affaire Turati-Pertini, que je raconterai plus tard en même temps que je vous parlerai de la persécution des Juifs. Cependant, les relations d'Adriano avec les jeunes Lévis sont continues. Il fait à Paola, d'ailleurs la sœur de Gino, une cour assidue et finit par l'épouser. Oui, ça a été long, hein, parce qu'elle ne voulait pas de lui. Elle voulait un De Benedetti, mais bon, il a su la convaincre. En 1927, il l'épouse. C'est un mariage civil et célébré sans bruit. Les voici tous les deux, je suppose en voyage de noces. Ils vont faire un voyage de noces de 6 mois en Europe. Mais lui, il visite des fabriques. Et sa femme l'attire dans les musées et au cinéma. En 1928, naît un fils, Roberto, et plus tard une fille, Lydia. Le mariage ne l'empêche pas d'élaborer des projets pour l'entreprise. Résultat de ses réflexions, il envoie à son père une note dans laquelle il propose une direction décentralisée et par fonction. Il propose aussi le développement du réseau de vente en Italie et à l'export, et l'ouverture vers les marchés de masse. Tout y est, mais assez ramassé. À son retour, son père approuve ses décisions, pourvu qu'il licencie aucun ouvrier. Et selon le vœu paternel, on maintient la fabrication de tous les produits auxiliaires, y compris les rubans, par exemple, tout. Ça, il aimait bien tout fabriquer, il se mêlait de tout, hein, de toutes les fabrications. Mais c'est aidé d'une nouvelle équipe et de son ami Gino, qu'il a embauché, que Adriano entreprend de rationaliser la fabrique. Les améliorations permettront de réduire à 5 heures le temps de fabrication d'une machine au lieu de 12 heures auparavant. Alors maintenant, je vais passer aux machines elles-mêmes. Pardonnez-moi si je vous fais défiler un peu de machines. Entre-temps, je vous montrerai aussi les usines. Alors d'abord, l'affiche, vous allez reconnaître. Vous allez reconnaître le personnage. C'est la première. Ça a dû être le père Camino qui a choisi cette affiche, que vous reconnaîtrez Dante Alighieri, évidemment. Le prix de production de la M1 était de 500 lire. À comparer au salaire annuel d'un ouvrier qui était de 1000 lire. Il pouvait acheter deux machines s'il voulait, sans rien faire dedans. Hein. La voiture Fiat coûtait 7000 lire, donc 14 fois la machine à écrire. À la M1 va succéder la M20, alors là aussi c'est un cas qu'on a appelé la Rapidissima. Là on voit qu'il y a de la recherche. Hein. Ça, c'est... Le numéro 20 fait sans doute référence à l'année 1920. Il y aura encore un modèle plus élaboré plus tard, qui s'appellera la M40. Alors, je vais vous montrer maintenant l'usine agrandie. L'usine s'est agrandie, mais la construction continue dans le même style. Et on voit, dans le fond, la maison paternelle, le couvent. Il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire pour aller au travail. Alors là, le modèle qui suit, là, c'est cherché aussi. Hein. Peu à peu, le marché des acheteurs grandit, passant de l'usine au bureau, puis aux familles, et la femme devient prépondérante dans la décision d'achat. La MP1 est la première machine portable d'Olivetti, elle est vendue dans un coffret. Elle sort en 1932 et ne pèse plus que 5,2 kg. C'est la même année que Adriano devient officiellement directeur général de la société. Oui, moi j'aime bien cette affiche. Elle est quand même le style d'une époque, hein, typique. Hein. Alors, après cette machine, on a eu la Lettera 22. Oui, cette affiche-là, elle est un peu recherchée, mais il faut lire. Il faut lire tous les types de lettres qu'on peut écrire avec ça. On lit mal, mais c'est pas seulement les lettres d'affaires, hein. Pas seulement les lettres de bureau, mais il y a les lettres d'amour, aussi les lettres de rupture d'ailleurs, mais les lettres d'invitation, etc. C'est pour dire, on peut l'utiliser pour tout. Cette Lettera 22, c'est le nouveau modèle à succès. C'est la machine portable par excellence. Élégante et pratique, au design épuré, elle pèse 3,7 kg et elle deviendra la machine des journalistes et des écrivains. Oriana Fallaci, Montanelli, Moravia, à l'étranger l'écrivain allemand Günter Grass, vont utiliser cette machine. Cette publicité, ici, rappelle tous les types de lettres, comme je vous l'ai dit, qu'elle permet de taper. La Lettera 22 remporte un succès mondial, mais demeure inconnue en France, bien que popularisée par une actrice française. Je vous le donne en mille, c'est Brigitte Bardot, qui descendait d'avion dans une... je ne sais pas si c'est dans une pub TV. Non, c'est pas la TV à l'époque. Hein. Donc, dans une affiche, avec en main... Je n'ai pas réussi à me procurer l'affiche. La Lettera 22. Il n'y a pas de lettre 22 en français. Cette machine, semble-t-il, était fabriquée uniquement, alors je crois que c'est la raison, avec un clavier QWERTY. Vous le savez, vous ne le savez pas, mais dans nos brevets d'unicité en France, on a celui également de clavier, puisque notre clavier AZERTY, il est connu de nous, mais ailleurs, c'est comme tout le monde le sait bien, en utilisant l'informatique en particulier, les claviers sont des QWERTY. Alors, je vais vous montrer la Lettera 22 à New York, exposée devant le magasin Olivetti de New York. Comme on voit, les passants pouvaient faire un essai. C'est ainsi que Watson Jr., le président d'IBM, le président et quasi-fondateur d'IBM, la distingua et se convainquit des mérites du design pour la fabrication. La Lettera 22 va devenir l'un des symboles du miracle économique italien et atteindra le maximum de production de 200 000 par an. Pour l'époque, c'était beaucoup. Hein. L'ensemble des produits Olivetti, je dois dire, ne peut plus être uniquement produit dans les établissements d'Ivrea qui ont grandi. De nouvelles usines sont construites, d'abord dans le Canavese, comme Allier, où l'on fabriquera la Lettera 22, puis dans le sud de l'Italie, plus tard à l'étranger, Brésil, Argentine, Angleterre. Là, ici, on a l'usine de Pozzuoli. La création d'une usine à Pozzuoli se fait dans le cadre du développement du sud de l'Italie. C'était un grand projet patriotique d'Adriano. Pozzuoli est situé à 15 km de Naples et l'usine se trouve à proximité de la mer. En même temps que l'usine, est prévue la construction d'immeubles d'habitation. C'est un projet ambitieux qui réussira malgré bien des difficultés. Je crois bien que c'était l'une des premières usines réalisées dans le Midi. Il y a eu un grand roman à l'époque qui s'appelait Donnarumma à l'assalto. Donnarumma, c'est un nom du Midi, hein, à l'assaut, Donnarumma à l'assaut. Et qui décrit les problèmes concrets d'embauche du personnel, dans le sud de l'Italie à l'époque. Toujours d'avant-garde, Adriano évolue. Le métier d'Olivetti n'est plus seulement la machine à écrire, mais toutes les machines de bureau. Et c'est en 1940 que sort la Summa, la première machine additionneuse d'Olivetti. Puis, en 1947, est présentée à la foire de Milan la Divi Summa. Je ne sais pas, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est la première calculatrice aux quatre opérations fabriquées par Olivetti et qui était destinée à concurrencer une machine calculatrice de la Remington toujours. La Divi Summa est un pur produit de la capacité de recherche et de l'ingéniosité que l'on rencontrait à l'Olivetti. Parce qu'elle a été développée par un ancien ouvrier, Natalino Cappellaro, qui est inscrit dans les annales de l'usine, hein, qui avait débuté en 1916 comme apprenti. Et elle doit son achèvement au directeur Gino Levi Martinoli. Cette machine allait devenir une poule aux œufs d'or pour Olivetti, grâce à une marge brute de 90%. Alors, d'autres machines de bureau allaient suivre. Alors là, je vais vous le montrer, elles n'étaient pas aussi rémunératrices que la Divi Summa, mais c'est vous dire qu'on faisait, quand un représentant allait trouver un client, il avait un beau catalogue à lui présenter. Hein. Ça, c'est le téléscripteur. C'est celui de 1960. Mais les essais avaient commencé dès 1936 avec un modèle appelé T1 qui a été abandonné avec la guerre. Et un projet auquel avait collaboré Massimo Olivetti, le frère d'Adriano. Alors, on n'abandonne rien, même si les modèles fabriqués ne sont pas très nombreux. Et ça, c'est la machine comptable, l'Audit 52. Mais le grand pas allait être fait en 1958 avec le premier ordinateur italien capable d'être produit en série. L'Elea 9003, le voici. Ça pourrait vous dire quelque chose. ELEA, ça veut dire élaborateur électronique arithmétique. Déjà en 1949, quand il a visité l'usine de Olivetti, le célèbre physicien Enrico Fermi avait suggéré de s'intéresser à l'électronique. Et c'est dans un discours aux actionnaires que Adriano déclare « Un besoin fondamental de sécurité nous conseille d'être prêts quand la technique permettra à nos produits de passer de la mécanique à l'électronique. » Vous voyez, il avait de la vision. Hein. L'ordinateur ELEA 9003 occupait 170 mètres carrés. Vous voyez, 17 mètres sur 10 mètres. C'est... Mais tous ceux qui ont pu voir des ordinateurs IBM de l'époque, c'était comme ça. Hein. Il n'y avait pas de console dans ce cas-là. Les données sortaient sur un téléscripteur. C'était le concurrent de l'IBM 380 qui, lui aussi, avait une mémoire séquentielle sur bande magnétique. Oui. L'équipe qui avait réalisé l'ELEA 9003 travaillait sous la direction de Mario Chou, un ingénieur italo-chinois rencontré par Adriano à l'Université de Columbia aux États-Unis. L'équipe de Mario Chou était animé par Roberto, le fils d'Adriano, et travaillait en collaboration avec l'université de Pise. Il y avait une collaboration universitaire importante. Alors, Mariuchu, je vais montrer, la photo n'est pas épatante, mais enfin bon. Bon, ben, je ne sais pas vous dire lequel des deux est chinois, vous l'avez vu, évidemment. Alors, de 1960 à 1964, on vendit à l'administration et à l'industrie italienne une quarantaine d'Elea 9003. Au prix de 500 millions de lire l'unité. Oui, la valeur de la lire avait changé aussi. Hein. Alors, bon, avant de vous donner la suite, je vais quand même vous dire un petit mot de Mario Chu. Hein, c'est Mario. Oui, je crois, Mario Chu, c'est son prénom, Mario. Alors, pourquoi un Chinois, hein? C'est pas parce qu'on voulait anticiper l'entrée de la Chine dans l'électronique, hein? Non, non. C'était le fils d'un ambassadeur chinois, mais à l'époque, l'ambassadeur, c'était la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, et il était ambassadeur au Vatican. Et ce Mario Chu, il est né à Rome. Et c'est pourtant en Amérique qu'Adriano l'a rencontré. Ce Mario Chu, il est décédé malheureusement, peu de temps après Adriano, dans un accident de voiture. Alors on a dit que c'était la CIA qui voulait se débarrasser d'un concurrent gênant, mais enfin, c'est pas possible. C'était des bruits qui n'étaient pas fondés. Donc, je vais revenir sur les usines. Tous ces développements rendent nécessaires à Ivrea des agrandissements et des créations d'usines et de bureaux. Et l'on arrive à la naissance d'un complexe industriel considérable pour l'époque. Alors, les dates de création sont écrites. Vous pouvez peut-être pas bien les voir, moi-même ici je les vois assez mal. Ce que je peux vous dire, c'est que là où... Oui, il y a toujours l'ancien couvent et l'ancienne usine. Alors vous voyez les dimensions que ça a pris. Hein. Et les dates de construction, ça va jusqu'en 57 là. Donc c'était devenu énorme. En 1960, quand disparut Adriano Olivetti, le groupe employé partout hein, dans le monde, 45 000 personnes et exporté 60% de sa production. Et pourtant, la famille Olivetti avait dû affronter les épreuves du fascisme, de l'antisémitisme et de la guerre. On va voir comment les Olivetti ont su résister. Vous allez reconnaître ici, on reconnaît bien sûr dans cette photo Mussolini, au milieu des chemises noires du parti fasciste. On est en 1920 et Camillo Olivetti édite une revue locale appelée Tempi Nuovi, puis le nom a changé, Rivoluzione Liberale, bon, Révolution Libérale, c'était tant nouveau avant, une revue qui quand même influence un tirage très local, mais qui prend position contre le fascisme. Et il trouve en son fils, Adriano, un collaborateur assidu, mais dans les bandes fascistes qui dévastent plusieurs fois le siège de ce journal des adversaires dangereux. Il a dû arrêter hein, de publier son journal. Au niveau national, l'opposition au fascisme se trouve incarnée par un personnage qui s'appelle Filippo Turati. Filippo Turati était l'un des fondateurs du Parti Socialiste. Il était aussi le compagnon d'Anna Kulichov. Ça ne vous dit peut-être rien. Anna Kulichov, c'était vraiment l'une des personnes qui était à la base du socialisme en Europe. Hein. C'était une doctoresse de grand renom. Elle tenait à Milan, avant la guerre, un salon où se rencontraient les militants socialistes de l'époque, dont un certain Mussolini. Il allait chez la Kulichov et puis une autre, la Balabanov aussi, mais bon, je ne vais pas vous en prêter. Je ne sais pas quel est pourquoi il y a ces noms russes, mais Kulichov, Balabanov, etc. Et puis c'était à Milan. C'était vraiment un foyer d'opposition au fascisme. Les temps avaient changé avec Mussolini. Hein, et les agressions fascistes se multiplient. Et à la mort d'Anna Kulichov en 1925, Turati décide de fuir clandestinement en France. Alors les Olivetti sont contactés pour apporter leur aide à ce projet. Je vous remonte un petit peu Adriano. Adriano, c'est en 1925. Il conduit Turati à la maison des Lévi, parents de Natalia. Au point de vue de la conduite, Adriano, c'était peut-être dangereux de la part des fascistes, mais on se demande si c'était pas un peu dangereux de se faire conduire par Adriano, parce qu'il paraît qu'il conduisait très mal. Il passait directement en troisième ou quatrième, enfin bon. Ensuite, ou bien il allait en bicyclette, ou bien il avait un chauffeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Adriano, je reviens, il mène Turati à la maison des Lévi, les parents de Natalia. Celle-ci nous raconte, en parlant d'Adriano bien entendu, il commençait à perdre ses cheveux et il avait désormais le crâne presque chauve et carré, entouré de boucles blondes et crépues. Ce soir-là, son visage et ses quelques cheveux étaient comme fouettés par un coup de vent. Il faisait des yeux effrayés, résolus et gais en même temps. Je lui ai vu ses yeux deux ou trois fois dans la vie. C'étaient les yeux qu'il avait quand il aidait une personne à s'échapper, quand il y avait danger et quelqu'un à sauver. La nuit du 6 décembre 1926, Adriano conduit Turati à Savone. Donc Savone, vous voyez, c'est sur le golfe de Gênes, où ils embarquent. Enfin, Turati rencontre Pertini, conduit par un autre chauffeur, et ils embarquent ensemble pour la Corse, donc la France. Turati devient en France le chef des exilés. Il mourra 6 ans plus tard à Paris. Après ces événements, et par précaution, Adriano part quelques mois à l'étranger, mais il ne va pas être inquiété. Pourtant, en 1931, sur dénonciation, venue de l'étranger du reste, est ouverte une enquête sur son antifascisme par la préfecture d'Aoste. Il nous montre là, plus tard, le document qui indique, alors ça indique que c'est un citoyen subversif. C'est la fiche personnelle qui est ouverte sur lui, qui nous montre maintenant. Au niveau local, les autorités minimisent, tandis qu'à Rome, on souhaite maintenir une surveillance plus sur ses activités politiques. Peut-être, parce que ça n'a pas eu de suite tellement, par seule habitude bureaucratique. À l'époque, le fascisme avait aussi sa bureaucratie. Il fait encore partie, d'ailleurs, d'une délégation envoyée, où ça ? En URSS, par la Confédération fasciste des industriels, afin de développer les liens commerciaux avec ce pays. Toutefois, et sans doute par nécessité, il ne va pas s'en cacher plus tard, en 33, le 31 juillet exactement, Adriano s'inscrit au parti fasciste. Bon, ça c'est avec le verso de la carte du Partito National et Fasciste. À son sujet, la police remarque ce qui suit. On pense qu'il s'est inscrit par opportunisme, afin que son entreprise soit protégée et soutenue par le gouvernement. Il faut dire qu'à partir de 1926, le fascisme s'était fait le défenseur de la production nationale. La crise de 1929 débarrassait le pays de la concurrence américaine et allemande et livrait aux fabricants locaux le marché italien, en même temps qu'il convenait, pour les fascistes, de ne pas affaiblir la production nationale. Mais quand même, pendant ce temps, l'opposition au fascisme se poursuit en exil, soutenue clandestinement de l'intérieur et souvent par des proches d'Adriano qui n'avaient pas changé d'opinion. L'un d'eux est Mario Levi, son jeune beau-frère, qui transporte des copies du journal d'opposition Justice et Liberté et qui traverse la douane avec ça sur lui. La douane, naturellement, l'arrête. C'est à la frontière italo-suisse de Ponte Tresa. La Ponte Tresa, vous connaissez peut-être, c'est le lieu de passage plus utilisé entre la Lombardie et le Tessin suisse. Ça se trouve sur le lac de Lugano, hein, vous voyez, c'est le lac de Lugano ici. Et puis alors, la Trezza vient se jeter dans le lac. Ouais. Vous avez des questions ? Alors, Mario Lévy fait ni une ni deux, il plonge dans la rivière, il n'y avait qu'à traverser, et il s'enfuit ensuite. Enfin, il fallait savoir bien nager, et puis il faisait froid. Hein. Or, il était employé chez Olivetti. Le pire est à craindre, car il y a d'abord un coup de filet chez les sympathisants de Giustizia, de Justice et Liberté, à Turin, dont le mari de Natalia, Leone Ginsburg. Et puis aussi le frère de Natalia, son frère Gino, celui qui avait été nommé directeur recherche et développement d'ailleurs, par Adriano de la Olivetti, tous sont arrêtés. Mais Adriano a sans doute assez de pouvoir pour intervenir en leur faveur auprès du chef de la police. Et leur prison se réduit à 15 jours, sauf pour Leone Ginsburg, et il en prend pour 4 ans. Réduit à 2 pour la naissance de Maria Pia, la fille du roi. Et les Olivetti eux-mêmes ne sont pas inquiétés. Et Adriano, malgré le régime, il avait déjà des idées qui lui circulaient dans la tête, des projets nationaux qui dépassaient le cadre de son entreprise. L'une d'elles, c'est le plan régulateur du Val d'Aoste. Il va soumettre à Mussolini un plan régulateur du Val d'Aoste. C'est un plan du Val d'Aoste agrandi, puisque le Val d'Aoste est donc là, hein, et agrandi de Ivrea, qui se trouve ici en bas, et du Canavese. Hein. C'est un plan qui a été préparé par toute une équipe d'architectes urbanistes, et qui consistait dans une bonne centaine de planches, enfin quelque chose d'étudié, de volumineux, hein, qui a été présenté à Mussolini. Mais Mussolini, ça ne lui a pas plu. Il n'était plus dans cette atmosphère-là. Le plan est repoussé en faveur d'un développement qui sera plus en ligne avec les idées de développement dans le cadre de l'histoire romaine. Vous savez, Mussolini, il invoquait le passé romain de l'Italie. Et malheureusement, ça n'était pas surprenant, vous le savez bien, le régime se durcit. Nous allons en arriver aux lois raciales qui vont durement atteindre les familles juives des Lévi et des Olivetti. Je vais vous donner un exemple de loi raciale. Cette affiche exprime bien toutes les carrières dont les juifs étaient exclus, dans la banque, dans l'assurance, ils ne pouvaient pas avoir de prêt, ils ne pouvaient pas enseigner, vous voyez, ils étaient exclus de l'école italienne. Puis alors, ce qui ne manquait pas, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la figure de juif qui est la caricature, oui. Alors Camille Olivetti, lui, il rédige un mémorandum de protestation. Il se fait des illusions. Hein. Il le confie à Adriano afin de le remettre à Mussolini. Adriano ne le remettra jamais, lui, il ne s'en fait pas d'illusions. Mais la question qu'on peut se poser, c'est selon les lois nouvelles, les Olivetti sont-ils juifs ou ne le sont-ils pas ? Eh bien, pas toujours. La religion vaudoise de la mère Louisa Revel peut être invoquée. Et Adriano et Elena, frères et sœurs, se procurent des attestations de baptême vaudois. Et ils sont déclarés ariens. Sylvia et Dino, ils sont trop loin d'Ivrea et ils ne font pas le nécessaire. Massimo, lui, il rédige sa déclaration pas dans les bons termes, lui aussi, il n'est pas rien. Camillo, le père, il est déclaré juif, mais juif discriminé, pour mérite exceptionnel. Vous voyez ? Non, mais ça n'a pas été si facile pour tout le monde, au contraire, hein, vous allez voir. Chez les Lévis, certains entrent en clandestinité ou sont assignés en résidence surveillée dans le centre et le sud de l'Italie. Et c'est là que Gino Levi change de nom et devient Gino Martinoli. Plus tard, Léoné Ginzburg, mari de Natalia, se trouvant en clandestinité, sera pris à Rome dans une rafle allemande et mourra torturé. Durant la guerre qui se déroule sur le sol italien, Adriano s'efforce par tous les moyens dont il dispose d'en faire sortir l'Italie. Il mise pour cela sur la reine, Marie-Josée de Savoie, qu'il rencontre plusieurs fois. Son projet est de faire confier la régence à la reine, suivie de la demande d'un armistice. Elle était venue en 1941 en visite officielle à Ivrea, voir la crèche installée près de l'usine. Il la rencontre, avec ses projets d'armistice, au fort de Bar, dans le Val d'Aoste. Il ne se contente pas de cette rencontre, il rencontre à Rome des généraux comme Cadorna, puis Badoglio, à qui il suggère de renverser Mussolini. Il se rend plusieurs fois en Suisse, où il rencontre Alain Dulles, le chef des OSS, qui allait devenir, je pense, je ne sais pas si, qui occupait un poste, hein, vice-président, enfin, il était chef des OSS, donc des espions, en somme, il était en Suisse. Hein. Et lui soumet sans succès son plan pour la paix en Italie, sans succès parce que pour les Américains, désormais, la guerre allait devoir aller jusqu'au bout. Il retourne à Rome, où l'aperçoit Natalia Ginzburg, et voici ce qu'elle dit. Je le rencontrai un jour dans la rue, à Rome, pendant l'occupation allemande. Il était à pied. Il déambulait seul, de sa démarche tranquille de vagabond, les yeux voilés de brume bleue, perdu en des songes éternels. Il était habillé comme tout le monde, mais dans la foule, on l'eût pris pour un mendiant. On eût tout aussi bien pu le prendre pour un roi en exil. Le 30 juillet 1943, il est arrêté, inculpé d'intelligence avec l'ennemi et emprisonné, ainsi que sa secrétaire, dans la prison romaine de Regina Coeli. Après 7 semaines d'emprisonnement et à la suite de l'armistice demandé par Badoglio le 8 septembre 1943, tous deux sont libérés. Mais l'armistice coupe l'Italie en deux et il se trouve en Italie occupée. Il va soutenir financièrement la résistance romaine. Averti de l'arrestation de Léon et Ginzburg, dont je vous ai parlé, par les Allemands, il vient chercher chez elle Natalia et ses enfants pour les emmener en sûreté lors d'une scène racontée par Natalia. Puis, il retourne à Ivrea, où son père vient de mourir. Sa mère meurt aussi peu de temps après. C'est le temps de la République fasciste de Salo. Il est recherché et doit vivre dans la clandestinité. Puis, il s'enfuit en Suisse, en février 1944, où ont trouvé comme lui refuge beaucoup d'opposants italiens, comme Luigi Einaudi, plus tard président de la République, l'écrivain Silone et d'autres. Adriano va rester plus d'un an dans un hôtel dans un petit village, Champfer, dans le canton des Grisons. Il est là modestement, dans un petit hôtel. Il avait son représentant en Suisse qui disposait de fonds et qui a pu non seulement soutenir lui, mais on verra d'autres personnes. C'est là, à Champfer, qu'il va écrire, toujours à la main. Ses textes sont tapés à la machine par sa secrétaire, mais il écrivait à la main pour quelqu'un qui fabriquait des machines. Hein. Il va écrire ses projets d'urbanisme et de communauté, qu'il éditera plus tard. Pendant ce temps, l'usine continue. Bon gré mal gré, continue de produire en petite quantité, et son personnel de survivre malgré l'oppression nazie. Quand Adriano revient à Ivrea en 1945, le directeur technique était toujours Gino Levi Martinoli. Et à partir de ce moment, l'entreprise va croître constamment et l'existence d'Adriano, il va devenir chef de famille, puisque son père est décédé, va connaître de nouveaux bouleversements. Alors ces bouleversements, avant ça, je vais vous parler de situation familiale. En Suisse, Adriano était seul, depuis longtemps séparé de sa femme, Paola. Faisons un bref retour en arrière. Dès leur mariage, et plus mondaine que lui, Paola souhaita rester à Milan et ne le suivit pas à Ivrea. Elle eut un amant, un peintre et écrivain, qu'une œuvre rendit célèbre. Je crois que vous le connaissez. Cet amant, c'était l'auteur de Christ, c'était un terre ébolique, c'était Carlo Levi. Ça, c'est donc le livre que Carlo Levi a écrit, tandis qu'il était, il n'était pas du tout parent avec les Levi. Il était assigné à résidence dans le sud de l'Italie, vous connaissez toute l'histoire. Alors on se demande, Adriano était-il trop absorbé par l'entreprise? Paola était-elle trop indépendante ou trop attachée à sa famille? Ils avaient eu deux enfants. Adriano continua de s'occuper de Paola, l'aida durant la guerre à se réfugier en Suisse, et même adopta Anna, la fille qu'elle eut avec Carlo Levi. Oui, Carlo Levi ne s'est pas du tout occupé de cette fille. Du reste, il a eu d'autres enfants ailleurs. Il était assez coureur, Carlo Levi. Et puis, il s'est occupé d'aucun enfant, d'ailleurs. Adriano ne se remarie qu'en 1950, avec une jeune fille d'Ivrea qu'il a connue à Rome, Grazia Galetti. Il est plus âgé, hein, là, en 50, à 40, à près de 50 ans. Adriano se convertit à la religion catholique et se fait baptiser. Le mariage est célébré dans une église de Rome, mais dans l'intimité, hein, sans bruit. La fille qui naît de ce mariage est gâtée par Adriano. Son prénom Laura, abrégé en Lal. Mais les rapports qu'avait Adriano avec ses frères et sœurs n'étaient pas toujours faciles. Il faut rappeler que l'entreprise avait été créée par le père Camillo et les actions étaient détenues par les frères et sœurs à parts égales. La direction éclairée, mais parfois à éclipse d'Adriano, son intérêt constant pour des projets extérieurs à l'entreprise rendit parfois difficiles ses relations avec sa famille. Mais c'est dans l'entreprise et avec son frère Massimo que survint le plus grand désaccord. C'est une photo de Massimo. Et de retour de Suisse, je vous le rappelle, Adriano a repris le poste de directeur général qu'il avait laissé à Massimo. Et puis en septembre 1945, il laisse Massimo de nouveau pour aller à Rome où il lance une revue et une maison d'édition appelée comme Unita et qu'il s'inscrit aussi au Parti Social Chrétien. Il se lançait dans l'édition et la politique. Il a été vite déçu. Il rentre à Ivrea et il reprend son poste malgré l'opposition de son frère. Alors ce dernier n'a pas du reste... Il n'a pas été approuvé par la famille, c'est Adriano qui a reçu l'approbation de la famille et Massimo, déçu, se retire dans la maison familiale, le couvent, où il mourut d'infarctus peu de temps après. Alors on verra plus tard que ce sont les beaux-frères d'Adriano qui vont le contester et pour cette décision financière cette fois. Je vais maintenant vous parler d'Adriano dans sa manière de conduire l'entreprise. Son style de direction s'appuyait sur une bonne sélection de ses collaborateurs et la délégation de pouvoir. Il participait lui-même aux entretiens d'embauche importants et faisait confiance à l'analyse graphologique. C'était son, son système. Mais voyez, semble-t-il, les fonctions de ces directeurs réduites à des sortes de missions qui devaient répondre à l'évolution présente de l'entreprise, de la technique et du marché. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre, il démit le comité de direction, qui avait en son absence assuré les affaires courantes, et dont faisait partie son ami de jeunesse, Gino Martinoli, qui par la suite continua sa carrière ailleurs, sans qu'ils aient des difficultés l'un et l'autre pour se rencontrer, sans acrimonie. Sur le plan social, Adriano avait conservé de son père une part, dirait-on, de paternalisme. Il est ici décoré de la Spilla d'Oro, c'est l'aiguille d'or, en récompense de ses 25 ans de présence dans l'entreprise, une sorte de médaille du travail. Mais la personne qui remet la décoration, c'est sa sœur, qui est actionnaire de l'entreprise. Adriano, de son côté, fut un entrepreneur éclairé, essayant constamment de concilier les règles de l'économie avec la responsabilité sociale de l'entreprise, de construire une entreprise à visage humain. Les bénéfices extraordinaires, il faut bien le dire, de l'entreprise le permettant, il accorda des salaires d'un tiers plus élevés que la moyenne nationale pour des catégories analogues. Il abaissa la durée de la semaine de travail à 45 heures, ce qui était bon pour l'époque. Il assura la formation par la création d'un institut technique à l'intérieur de l'entreprise et par le développement de l'apprentissage en usine. On voit ici des apprentis. Dans la catégorie, dans le genre des services sociaux, le groupe Olivetti était vraiment résolument à l'avant-garde. Qu'il s'agisse des congés de maternité ou des crèches. Alors des crèches, je vous montre une crèche. C'est charmant, hein ? Des crèches, des colonies ou des camps de vacances. Bon, ben là, c'est une colonie de vacances où il y a encore des enfants, bien sûr, des colonies. À Massa Maritima, où il y avait un atelier. Alors, il y a eu des transports, des mutuelles de santé, des prêts bonifiés pour accession à la propriété, des maisons de retraite. On va voir, ça, ce sont des logements d'entreprise à Ivrea. Un projet qu'Adriano avait beaucoup à cœur était celui de la bibliothèque pour les ouvriers et les employés. Je vous ai montré la bibliothèque la plus vaste, parce qu'il n'y avait pas toujours de la place pour la bibliothèque. Celle de Pozzuoli, c'était nouveau. Hein. Alors on a pu faire prévoir la bibliothèque tout de suite, et puis visiblement tout le monde est en train de lire. Pour l'animation culturelle et sportive, on créa le GSR, Groupe Sportif Récréatif Olivetti. Alors, j'ai retrouvé une affiche, elle date de 62. Mais enfin bon, c'est valable. C'est une affiche pour aller voir un spectacle de la GSR. D'ailleurs, il faut remarquer, bon, il y a le guide Walter Bonatti et même Dario Fo. C'est en 62. Je crois que c'est en 62, oui. On commença à informer mieux le personnel sur l'entreprise elle-même par l'édition d'une revue d'entreprise, Notizie Olivetti. Dès 1950, est créé un conseil de gestion pour la représentation du personnel et sa consultation sur la stratégie de l'entreprise. Adriano y voyait aussi une extension vers la co-gestion et un outil de participation, mais qui restera de portée réduite. C'était pas mûr. Alors on va voir, c'est aussi 2 années après sa mort, en 63, une affiche pour les élections au conseil de gestion. Alors bien sûr, le conseil de gestion n'était pas bien vu des syndicats nationaux, en particulier la CGIL, la CGT italienne, qui y voyait une trop grande influence de la direction. Les relations d'Adriano avec le syndicat patronal ou le patronat régional, comme les Aldialdi, n'étaient pas meilleures, parce qu'avec ses salaires. Sauf pour la création en commun d'une école des cadres avait en commun avec les Agnelli, hein, à Turin. Sur le plan culturel, Adriano a voulu placer culture et esthétique au centre de l'entreprise. Et il sut s'entourer d'artistes et d'architectes de grand talent et employer des designers renommés pour la création de ces machines et leur publicité. On y voit l'alliance des idées de marketing et de la qualité artistique ou d'impression. Un bon exemple, ce sont les calendriers remis en cadeau et qui représentaient des tableaux de maîtres. C'étaient des vrais calendriers d'art. Ce sont des reproductions soignées, imprimées en série. Le premier calendrier, paru en 1951, présentait des tableaux du douanier Rousseau. Au-delà de la peinture traditionnelle, ancienne et moderne, il y eut aussi des séries d'art nouveau japonais. A remarqué aussi le calendrier Braque, pour lequel l'artiste choisit lui-même les tableaux à représenter. Ça ne s'est pas limité à ça. Hein. La recherche de la qualité se retrouve également dans la création d'agendas, de livres d'étrennes, d'objets publicitaires, toujours de bon goût et qui présentaient discrètement la marque Olivetti. On a dans le même esprit l'architecture dépouillée et de qualité des magasins ouverts dans les plus grandes villes, New York, Paris ou Londres. Ici, c'est le magasin de Venise qui existe encore, enfin c'est appelé maintenant Espace Olivetti, c'est dédié à des expositions temporaires. On le trouve place Saint-Marc. Dernièrement, il y avait une exposition contre des grands navires de croisière. Adriano Olivetti non seulement confie leur création à des architectes de ces magasins de grand talent, mais en outre sa passion pour l'urbanisme l'a porté aussi à rechercher pour ses usines et ses bureaux les meilleurs architectes italiens, mais aussi les conseils de grands architectes mondiaux venus le visiter. Et parmi eux, je ne sais pas si vous le connaissez, Le Corbusier. Le Corbusier qui déclarait la Via Jervis, c'est la rue que vous allez avoir, est la plus belle là del mondo, et la plus belle du monde. La Via Jervis traverse le quartier Olivetti d'Ivrea. Et c'est pour d'ailleurs ce quartier Olivetti que la ville, Ivrea, veut maintenant se porter candidate au titre de ville industrielle du XXe siècle. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va voir la Via Jervis. Non loin de là, on trouve une construction remarquable, l'immeuble d'habitation appelé Talpogna, qui est construit plus tard sur le même site et dans l'esprit Le Corbusier. Talpogna est un ensemble semi-circulaire, bâti dans un environnement verdoyant, de logements tournés vers la forêt, avec un toit jardin. C'est devenu un symbole des édifices olivettiens. Je n'ai pas réussi à trouver un... Talpogna, c'est le nom d'un papillon. Alors pourquoi est-ce que ce nom a été choisi? Et un papillon peu connu en outre. Enfin, la passion pour l'art et la culture d'Adriano Olivetti va s'exprimer dans une nouvelle entreprise, l'édition. Et d'abord, bien sûr, l'édition de Revue d'architecture, l'Urbanistica ici. Puis, on va éditer des œuvres choisies fréquemment, des œuvres philosophiques ou à portée sociale, assez rares, peu éditées, peut-être peu lues, qui sont la marque des préférences d'Adriano. Par exemple, j'en ai choisi ici, pour vous donner un exemple, le livre édité, on a Timor et Trémor, hein, du philosophe Kierkegaard, enfin Crainte et tremblement. Alors Mounier, c'est le philosophe chrétien. Il s'était mis à étudier le philosophe chrétien. Hein, et puis alors Simone Veil, il a toujours aimé hein, Simone Veil. Il n'a pas rencontré pourtant, mais il a suivi d'assez près. Et puis d'ailleurs, on vous l'a déjà signalé, c'est Marie-Annette Fourneyron, qui, dans une conférence à cette philosophe, a cité les liens qu'elle avait avec Adriano Olivetti. Notez le nom je vous en ai déjà parlé un peu d'ailleurs, de la société éditrice Comunita, Edizioni Comunita. Je vais aborder maintenant le domaine de l'action publique, dans lequel Adriano s'engagea par période, mais toujours de façon intense. La première intervention est celle de Matera, vous voyez bien Matera, dans Mezzogiorno. Et ça, si. Elle est due à un ami américain, professeur de philosophie Friedman, qui fait partie d'une mission américaine en Italie. Cette mission était chargée de créer un village agricole afin d'y reloger des habitants venus des Sassi. On voulait faire sortir les habitants des Sassi. C'était la politique de De Gasperi, d'ailleurs. Adriano collabore activement au projet qui sera réalisé et dont l'église moderne est l'édifice le plus remarquable. Voici l'église de Martella. Depuis, ce village s'est agrandi et le nom d'Olivetti reste associé comme symbole au renouveau de Matera. Mais c'est bien l'esprit de communauté qui a inspiré Adriano dans l'aventure de la Martella. Car en 1945, je le rappelle, lors de son exil en Suisse, Adriano a écrit l'Ordine Politico della Comunità, organisation politique de la communauté, manifeste qui exprime ses idées. Adriano imagine des régions italiennes dotées d'une grande autonomie selon un modèle fédéraliste. Ces communautés se forment autour d'un groupe industriel, ou comme le sien, ou d'un groupe de petites entreprises, qu'on appellera d'ailleurs plus tard un district industriel, mais où la composante agricole est complémentaire, c'est important. Les communautés ont une population de 100-150 000 habitants. Le Canavese et sa capitale Ivrea fournissent un bon exemple de communauté. Dès 1946, pour diffuser ses idées, Adriano crée la revue Comunità, suivi de la maison d'édition Edizioni di Comunità. En 1948, il crée un mouvement politique qu'il appelle le mouvement Movimento Politico di Comunità. Et pour y diffuser ses idées, il écrit en 1949 un livre appelé Democrazia senza partiti, Démocratie sans parti. On y lit que des millions d'Italiens attendent un renouveau moral et matériel, que les listes des députés sont manipulées par la direction des partis, je n'allais pas se faire aimer, hein, qui ont manqué de tolérance et trahi leurs idéaux. Ce mouvement est vainqueur lors d'élections administratives dans le Canavese et il est élu maire d'Ivrea en mai 1956. C'était évidemment sa popularité locale. Il met en route, comme maire, bon nombre d'investissements, mais dans ses projets communautaires eux-mêmes, il s'oppose à l'administration préfectorale. Alors il se lasse et se démet au bout d'un an et demi. Alors, il se présente aux législatives de mai 1958. Il se présente sans attache partisane, mais quel parti aurait voulu de lui. Il lutte sans arrêt, prodiguant ses forces et ses moyens financiers personnels. On va le voir ici. Bon, vous devinez que c'est lui qui est dans le fond sur la tribune en campagne électorale. En vain, le mouvement ne gagne qu'un seul député, lui-même, et reste sans influence à la Chambre. Alors il donne sa démission fin 1959, pour se reconsacrer à son entreprise. C'est alors qu'il est contesté à la direction du groupe par deux beaux-frères qui lui reprochent, entre autres, de dissiper les finances par ses investissements non lucratifs comme ceux de Lirour. Je vais vous montrer un atelier de Lirour. Lirour, ça veut dire Institut de renouvellement urbain et rural. Toujours les mêmes idées. Hein. Lirour avait pour objectif de favoriser la création, dans les campagnes et aux alentours d'Ivrea, de petites entreprises et de coopératives agricoles techniquement développées. Vidraco est l'un de ses ateliers aux activités très variées, loin du cœur de métier. Oui, on sortait carrément du cœur de métier. Devant la fronde de sa famille, Adriano doit reculer. En effet, si la famille détient encore 54% des actions, majorité, le reste étant divisé en 120 détenteurs, donc on est tranquille, mais lui n'en a plus que 10%. Il donne son congé pour 6 mois, laissant la direction à son directeur financier, Perrault, avec lequel le groupe pourra se retirer de l'Irour, en effet. Perrault ne se limite pas à ça, il restreint toutes les dépenses de nature sociale. Il lance même un plan de licenciement du personnel. Mais au bout de 6 mois, Adriano est rappelé à la direction. Nous sommes en avril 1959. En mai, le président d'un gros concurrent américain, Underwood, vient à Ivrea pour conclure un accord d'achat de la calculatrice Olivetti. Vous vous rappelez, hein, c'est la 90% de profit. Il se montre en même temps disposé à céder une partie du capital de la Underwood. Adriano croit rêver. Underwood, c'est l'usine qui jadis lui a refusé l'entrée comme visiteur. C'est la deuxième société américaine du secteur, d'une renommée mondiale. Voyons un peu cette usine Underwood. Adriano décide de brûler les étapes. Il sait bien que la Underwood n'est plus celle des fondateurs, qui en 1908 produisait déjà 70 000 machines à écrire par an. Mais elle a encore en vente un modèle renommé et un réseau de vente qui pourrait ouvrir à Olivetti le marché américain des calculatrices, voire des ordinateurs. En septembre, Adriano part pour Hartford, c'est la ville où se trouvait Underwood, avec une équipe de direction complète. Et l'affaire est conduite en peu de temps. Olivetti, par un investissement de 9 millions de dollars, achète 35% des actions, prenant ainsi le contrôle d'Underwood. Cette fois, la famille s'est déclarée d'accord. Que ne se sont-ils pas opposés ? On s'aperçoit très vite qu'Underwood était une carcasse vide, outillage désuet, usine mal organisée, croulant sous les stocks. Voici ce que dit Adriano. Quelle impression terrible ! Si au lieu de passer mon temps avec les avocats, j'étais allé voir les ingénieurs, jamais, au grand jamais, je n'aurais donné mon consentement. Adriano et ses hommes ont beau donner un magnifique coup de rein, intervenant sur le terrain pour redresser la Underwood, il faut renforcer la participation à 69%, amenant ainsi la fusion complète des deux groupes. Et Olivetti, devenue dépendante du système bancaire, va devoir quitter la pratique familiale et planifier son entrée en bourse. C'est certes pas la sorte de transmission dont Adriano avait rêvé. Plusieurs fois, il avait pensé convertir l'entreprise en une fondation transmettant la propriété à une partie du personnel. Le plan d'entrée en bourse est achevé, approuvé par les actionnaires. Et le samedi 27 février 1960, après une journée de travail à Milan, entrecoupée d'un déjeuner dans la galerie à Vittorio Emanuele, avec ses collaborateurs, il prend le train pour Lausanne. Il rencontre une collaboratrice qui se rend à une station de ski. Détendu, il raconte des histoires de son passé, la fuite de Turati et de Pertini, sa prison à Rome. Puis, laissé seul dans son compartiment, il est atteint d'un malaise. À l'arrêt, à Aigle, juste avant le lac Léman, il est transporté à l'hôpital où l'on ne peut que constater son décès pour crise cardiaque. À Ivrea, c'est un coup de tonnerre en plein carnaval. Les obsèques rassemblent toute la ville. Le groupe se remettra difficilement de sa brutale disparition. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Olivetti, qu'est-ce qu'elle est?
Oui, Olivetti n'était pas mort à l'époque. Olivetti a continué. Il a même continué longtemps. C'est une autre histoire.
Oui, une autre fois.
Différent, c'est une histoire qui est quand même plus axée vers l'entreprise elle-même, mais qui implique beaucoup d'industriels italiens. Enfin, pour vous dire en deux mots, surtout, y est intervenu De Benedetti, qui est actuellement président de Presse, La Repubblica et l'Espresso, et qui était intervenu également dans la Société Générale de Belgique, ça fait du bruit. Enfin, c'est toute une histoire, et surtout, surtout sur le plan de la production, Olivetti, qui avait abandonné les grands ordinateurs, parce que ça a été revendu à General Electric, a commencé à produire les ordinateurs personnels. Et a produit jusqu'à 1 million d'ordinateurs personnels. Mais c'est une autre histoire. Je ne pouvais pas mettre tout dans cette histoire.
Ma première Olivetti, ma première machine à écrire, c'était une Olivetti, la petite Olivetti rouge, très bien dessinée par un grand designer. Non, mais ça s'est fait, elle a été produite après la mort de Olivetti.
Bah, il est mort de désappointement. Il ne pouvait plus avoir la direction de son usine. C'était dans la bourse.
Ben, Olivetti était quand même malade. Hein. Il avait déjà fait un infarctus avant. Il ne se ménageait pas. C'est sûr tout ça. Alors il était. Ça devait. Certainement qu'autour de lui, on se disait que ça devait arriver. Il ne se ménageait pas.
C'était de famille, son frère était mort aussi.
Oui. Il faut penser que tous les ans, il allait en Amérique. Il faisait un revoyage de contact et d'études tous les ans. À part ses interventions dans la politique et dans d'autres domaines. Et puis des contacts qu'il avait pour... comme intellectuel manqué qu'il était un peu avec des écrivains de renom ou des personnalités artistiques.